Donc, il y en a une couple qui m'ont donné leur adresse. On va vous rajouter au mailing list. Je vais faire un petit changement toutefois pour les prochaines semaines. Je vais vous envoyer les notes du cours la semaine après quand j'ai donné le cours. C'est qu'en tout cas, je pensais à mon affaire, là. J'aime autant, dans le fond, mais même quand je donnais les feuilles de cours, quand j'avais des notes écrites, j'aimais mieux les donner à la fin du cours. Fait que le but des notes, c'est que vous ayez des notes, là. Parce qu'au sinon, tu sais, c'est comme à l'école, là, bon, tout le monde lit les notes pendant que je parle, ou je sais pas. Ou je me ramasse à des fois, pour les questions, ça me dérange pas d'y répondre la semaine d'après. Si finalement vous avez pas eu la chance de préparer des questions d'avance, c'est pas grave. Vous m'y posez, puis à la semaine d'après, on y revient. Et les notes pour les prochaines fois, je vais vous les faire venir la semaine suivante. C'est comme genre. Genre, mais c'est ça. C'est en même temps, dans le fond, dans les notes, là, c'est très, très. J'écris juste des points, là, c'est pas des belles phrases, c'est juste des points. C'est que dans le fond, c'est comme si je vous. Des fois, je vais comme envoyer des scoops d'avance, vous allez avoir comme des scoops sans nécessairement comprendre dans quel contexte. J'aime autant que je vous le dise, whatever, comme ça vient. Si vous n'êtes pas d'accord, puis là, vous êtes vraiment fâché de cette nouvelle, là, venez me voir après pour régler ça. Donc, la semaine passée, c'était vraiment juste une intro de l'intro, justement. C'est parce que, vu qu'on n'était pas encore sûr du nombre de personnes, puis si ça allait être enregistré, je ne voulais pas aller trop vite. Donc, ce matin, je ne sais pas combien qu'on est, mais je pense que ça... Qui n'était pas là la semaine passée? Et mon père n'était pas là, OK, Mathieu. Puis, dans le fond, j'ai le courriel à ta femme, c'est correct. Puis, est-ce que vous voulez recevoir les notes aussi? Je vais prendre votre nom, que je devrais savoir, mais bon, là, c'est... OK, mais c'est ça. Fauché.jean. OK. Donc, est-ce que j'assume que tous ceux qui sont ici ce matin, vous pensez continuer à suivre le cours? Donc, c'est bon. Ceux qui ne sont pas là, mais j'assumerai rien. On va voir. Donc, la semaine passée, on a commencé brièvement à parler de l'auteur, puis on va recommencer ce qu'on a laissé. Puis avant de débuter, je vais aussi prendre le temps de prier, puis on va commencer notre introduction. Seigneur grand Dieu, je te remercie encore pour cette journée. Merci, Seigneur, pour ta patience envers moi, envers nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Toute ta relation, tous tes rapports avec nous, avec l'être humain, ont toujours été marqués par ta grâce, Seigneur, par ta bonté, ton amour envers nous, et qu'on peut voir dès les premiers jours de la création. Et je te remercie pour ça, Seigneur, que tu n'es pas comme nous sommes. Tu es parfait, et c'est toujours merveilleux d'apprendre à te connaître davantage. Et je te remercie ce temps qu'on a ce matin pour apprendre à te connaître davantage à travers ta parole. Merci pour tous ceux qui sont ici. Je te prie de me donner de la clarté, puis de nous donner un bon temps ensemble dans la session qui s'en vient. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce qui a été dit la semaine dernière? Ou c'est assez bien? Donc, l'auteur, même avant de parler de l'auteur, je vais retourner un petit peu en arrière. Ça, c'est des notes que je vous ai probablement envoyées. Vous avez ces notes-là. Donc, on parlait de l'importance du livre de la Genèse. C'est pas pour vendre le cours, mais autant que je pense que quand même il y a un bon point à faire sur le fait que c'est un livre qui est important. Bon, même dans vos notes, c'est probablement marqué, là, j'avais pris ça quelque part, là, qu'on disait que c'est probablement le livre le plus important jamais écrit. En tout cas, la Bible, c'est certainement le livre le plus important jamais écrit. C'est clair que dans la Genèse, on trouve beaucoup de réponses à bien des questions sur le reste de la Bible. Imaginez-vous qu'on n'aurait pas la Genèse, il nous manquerait des bouts un peu. Entre autres, on commencerait l'histoire avec un peuple d'Israël, un peuple que Dieu a l'air à préférer que d'autres. On ne saurait pas pourquoi, d'où est-ce qu'il vient, là, pourquoi il y a un peuple tout d'un coup dont l'histoire est plus importante que le reste de la planète. On n'aurait pas les informations non plus de où ça vient, notre condition de péché. Là. Je veux dire, c'est de l'information qu'on a dans la Genèse de où ça vient, là, de qu'est-ce qui s'est passé au début de tout, là, pourquoi on a besoin de la rédemption. C'est qu'on a, la Genèse en donne des réponses. Et je pense qu'une des réponses les plus importantes, c'est de où vient notre besoin de rédemption, notre besoin d'être racheté. C'est toutes ces réponses, on les trouve dans la Genèse, particulièrement dans les 11 premiers chapitres. Par la suite, c'est du chapitre 12 et suivant, on voit les réponses par rapport à l'origine du peuple d'Israël. Comment Dieu a choisi ce peuple-là, comment ça s'est passé. Probablement aussi que si on a ici les plus vieux écrits du monde, si on assume que Adam aurait écrit quelque chose ou ses fils auraient écrit quelque chose de ce qui s'est passé au tout début, puis que Moïse aurait eu accès à ça plus tard, on est certainement dans les écrits les plus vieux du monde aussi. Puis, c'est ça. Autant que c'est important, autant que c'est des écrits qui sont vieux, autant c'est spécial pour nous aujourd'hui, en 2012, ou pour les gens. L'information qu'on y trouve, c'est l'information qui est totalement en contradiction avec ce qui est véhiculé, même de l'information qui est pratiquement pas intelligente, tu sais, pour les gens de notre époque. Et pourtant, pour nous qui mettons notre foi dans la parole de Dieu, il y a tellement d'informations qui est là pour renouveler notre intelligence, parce que justement, nous, on baigne dans une culture qui est à contraire à ce qui est dit. C'est clair que l'information qu'on y trouve, c'est souvent très éclairant. Je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est le genre de cours qui est très captivant. Parce que c'est de l'information, des fois, qui c'est tellement différent de ce qu'on a entendu, puis on s'est fait des idées sur bien des affaires. Là. Moi, le premier, là, juste de culture, depuis que je suis jeune, puis là, à un moment donné, j'arrive avec de la nouvelle information, c'est très captivant. Donc, le mot Genèse, dans le fond, c'est une traduction du mot grec Genesis, qui est pas juste un groupe de musique, mais qui veut dire origine. Donc, l'origine de plusieurs choses. Évidemment, dans la Genèse, vous aurez compris que lorsqu'on lit, on découvre l'origine de... Là, je vais vous lister une couple de trucs importants qu'on trouve dans la Genèse. Évidemment, c'est là qu'on comprend l'origine de l'univers, d'où vient l'univers. On va y comprendre aussi d'où vient l'ordre, la complexité. Tu sais, nous, aujourd'hui, on regarde autour de nous. Les gens regardent, on voit de l'ordre dans la création, dans la nature. On va appeler ça la nature pour tout de suite. On trouve de l'ordre, on trouve de la complexité. Dans la Genèse, répond à d'où vient l'ordre, d'où vient la complexité, d'où vient le système solaire. Pensez aux gens dans le monde aujourd'hui, c'est des grandes questions pour eux. Là. Il y a tellement de théories qui ont été sorties, on les essaie de comprendre. On a ces réponses-là ici. On a les réponses d'où vient l'atmosphère, d'où vient l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est tout le système aquatique là, relatif à notre planète. C'est important parce qu'aujourd'hui, une des choses qu'ils font lorsqu'ils envoient des sondes sur Mars et tout, c'est d'essayer de trouver la preuve d'une existence d'une autre atmosphère ou d'une autre hydrosphère ailleurs que sur notre planète. Parce que s'ils pourraient trouver de l'eau, de la preuve de l'existence de l'eau, parce que c'est tellement nécessaire à la possibilité de la vie ici. C'est que là, nous, on a encore ces réponses-là dans la Genèse. D'où vient la vie? D'où vient l'homme et la femme? Encore là, si c'est pas de la Genèse, il faut comprendre pourquoi d'un coup on a deux genders, deux sexes, comment ça s'est développé, si on a ces réponses-là. D'où vient le mariage? Pour nous aujourd'hui, pour les nouvelles générations, c'est peut-être bizarre comme question, mais c'est une institution qui est super ancienne. Là. Je veux dire, c'est-tu vraiment juste des personnes qui se sont mises ensemble qui ont inventé ça? Ou est-ce que ça a été inventé autrement? D'où vient le mal? C'est une question philosophique très profonde. La Genèse donne certainement une réponse. Ça donne pas toutes les réponses, mais on en donne certainement une. D'où vient le langage? C'est encore quelque chose qui monopolise l'esprit de bien des gens. D'où est-ce que les langues, comment se sont développées? Il y en a tellement, est-ce qu'ils viennent d'une seule langue, etc. On a toutes ces réponses-là dans Genèse. L'origine du gouvernement, le droit ou la capacité de l'être humain d'établir des règles, de gérer, puis de corriger ou d'avoir une certaine justice établie. L'origine de la culture, des nations, des langues et leurs nations, comment ça s'est développé. Le fait que l'être humain a la conscience d'une vérité absolue, d'où ce que ça vient, ça. Pourquoi on est conscient qu'il y aurait une vérité absolue? Bon, les gens vont combattre cette idée-là aujourd'hui, là, qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue, mais dans le fond, ça en soi, c'en est une, là, qu'il n'y en a pas de vérité absolue, il faut y croire quand même, c'est que il y a juste cette conscience-là. Donc, c'est toutes des réponses qu'on trouve dans la Genèse. Et qu'est-ce qui est intéressant pour nous qui croyons dans le livre de la Bible au complet, c'est qu'il n'y a aucun autre livre de la Bible qui n'a été cité si copieusement, c'est-à-dire que si avec d'une façon si précise, et qui a été référé si fréquemment. Il n'y a pas aucun autre livre dans les Écritures auquel on a référé autant. Dans le reste des Écritures, je parle de l'Ancien et du Nouveau, qui réfère autant dans la Genèse. Il faut comprendre la Genèse, ça va jusqu'au dernier chapitre. Là. Il y a beaucoup d'événements avec Abraham, etc. Là. C'est qu'il n'y a aucun autre livre qui a été aussi référé. Et seulement pour la section 1 à 11, parce que c'est celle qui nous concerne pour le cours, il y a à peu près plus de 100 citations ou des références, tout du moins, directes dans le Nouveau Testament. Et chaque auteur du Nouveau Testament y réfère. Pour ceux qui veulent avoir les preuves de tout ça, là, je pourrais tout vous photocopier. D'ailleurs, dans ce livre-ci, j'ai toutes les références. C'est que dans le Nouveau Testament, on a environ une centaine de références ou de citations directes des 11 premiers chapitres, qui sont pourtant des chapitres qui sont fortement attaqués, non seulement qui l'ont été, mais qui l'ont été en théologie libérale aussi, puis dans la haute critique, tout ça. Là. Donc, sans citations, références, on va y revenir plus tard un peu. Moi, celle qui m'intéresse beaucoup, c'est souvent celle que Jésus fait, quand Jésus va citer comme cité directement dans les dans le premier récit, puis il le fait de quelle façon, c'est quoi son attitude, c'est quoi la, est-ce que ça en va citer une histoire ou ça en va citer vraiment des faits qui se sont passés là. C'est intéressant quand Jésus en parle. Et Paul le fait, il y en a plusieurs autres, on va y revenir tantôt, j'en ai sorti quelques-unes qui m'intéressent. Et l'autre chose que l'étude de la Genèse peut faire, et je termine avec ça pour son importance, c'est que plus on devient convaincu que qu'est-ce qu'on y trouve comme information, c'est historique, que c'est vrai, c'est des faits historiques, mais en même temps, ça peut pas faire autrement que nous encourager pour le futur, parce que lorsqu'on pense au futur, peu importe quelle est notre vision de l'Apocalypse, il y a des, on parle, tu sais, qu'on va être avec Dieu, avoir des nouveaux cieux, avoir des nouvelles terres, il y a des descriptions de tout ça. Encore là, est-ce que je peux vraiment y croire? Mais si la Genèse est vraiment historique, ça s'est vraiment passé, ça me donne confiance que dans le futur aussi, ça va être vraiment historique, ça va se passer, puis il va y avoir des trucs, il va vraiment avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre en compagnie de l'agneau. Donc, évidemment, ça donne de l'importance au livre de la Genèse. Et là, j'en ferai pas une étude, mais pour ceux que ça peut intéresser, vous allez lire dans Apocalypse, les derniers chapitres 20, 21, 22, vous pouvez trouver des belles comparaisons avec le Jardin d'Éden. Là. Il y a des trucs qui reviennent même dans la nouvelle création qui étaient déjà là à Genèse. T'sais. C'est que pour ceux que ça intéresse. Donc, l'auteur. Comme je disais la semaine passée, on croit probablement, en tout cas, c'est la tradition juive, ça semble même ce que Jésus croyait. Jésus semblait ne pas combattre cette tradition juive-là de son époque, comme quoi que Moïse était considéré comme le genre d'éditeur, compilateur, auteur des cinq premiers livres de la Bible. Et ça veut pas dire, évidemment, que lui, il a tout écrit, mais il semble avoir eu, certainement, compilé, décidé qu'est-ce qu'il va mettre ensemble pour que ça suive, etc., faire de l'édition. Il a peut-être été cherché. Il a certainement, on peut pas le prouver à 100%, mais il a certainement eu accès à des documents déjà écrits. C'était une pratique qui se faisait déjà dans le peuple d'Israël. Si on va voir dans les rois puis dans les chroniques, on voit qu'ils ont eu accès à des documents qui étaient déjà écrits de l'époque des chroniques et des rois. C'était quelque chose qui était conservé. C'est que c'est fort possible que ça soit passé. Ça fait du sens aussi. On sait que c'est sûr que l'Esprit de Dieu était derrière ça pour conserver tout, mais je veux dire, la tradition orale, comme il l'a dans des peuples même de nos jours, ben ça fait ce que ça fait. C'est difficile d'avoir une tradition orale qui est très, très exacte si on parle de choses qui se sont vraiment passées. Et l'écriture va faciliter la conservation des faits. Là. Puis ça se faisait déjà. Et d'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais il est très clair dans la Genèse que la Genèse est divisée en différentes sections. Puis ces sections-là semblent vraiment faire référence à des archives ou des écrits. Puis là, vous l'aviez probablement dans vos notes. Il y a une expression qui revient là, 5 ou 6 fois à travers toute la Genèse. Puis c'est vraiment une expression là dans l'hébreu, là, ça revient pratiquement mot pour mot. Puis c'est des expressions qui semblent finir des chapitres dans la Genèse. Puis en français, on le traduit « voici les origines de » ou « voici la postérité de ». Puis quand cette expression arrive là dans la Genèse, c'est que ça fait référence aux textes qui viennent de passer, au dernier chapitre. Puis c'est souvent lorsque ça dit, mettons, voici la postérité de Noé. Ça fait souvent du sens avec le texte qui vient de passer, mettons, les derniers 3 chapitres. C'est comme si Noé aurait pu, lui, écrire ce qui s'est passé les 3 derniers chapitres parce qu'il était vivant. Puis c'est comme la façon hébraïque d'écrire cette petite phrase-là. C'est comme ça faisait référence au fait que Noé aurait compilé ces trois derniers chapitres-là puis il l'aurait écrit, voici. Mettons que c'est Moïse qui aurait compilé là, la Genèse. Voici cette archive-là, puis je vous la présente. C'est que ça, c'est vraiment, là, on parle ici de l'étude littéraire, là, mais je vais quand même vous mentionner ces versets-là. Le premier que vous devez déjà connaître, c'est dans chapitre 2, verset 4. Et on va y revenir à ce verset-là, là, mais ça dit « Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. » Juste cette petite phrase-là, sans faire une grosse étude grammaticale, on va y revenir, ferait référence à qu'est-ce qui vient de se passer. On aurait la première, en hébreu, c'est la Toledot. On aurait la première archive. Voici qu'est-ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours ici. Là, c'est clair ici, puis c'est intéressant de noter que ce commentaire-là n'est pas affilié à aucun nom. Parce que les prochaines phrases qu'on va voir, ça va dire voici la postérité de 7. Ici, c'est juste voici la postérité ou les origines du ciel et de la terre quand il fut créé, mais évidemment, il y avait personne qui était là pour dire ce qui s'est passé ces dernières journées-là. C'est qu'à quelque part, c'est clair que Dieu a dû, peu importe comment il l'a fait, une des possibilités, c'est qu'il l'aurait révélé à Adam, puis Adam l'aurait mis par écrit, ou peu importe, qu'il aurait révélé directement à Moïse plus tard quand c'était le temps. Là. J'ai l'impression qu'Adam aurait été au courant de ce qui s'est passé des dernières journées. Dans le caractère de Dieu, ça fait du sens que Dieu tienne au courant là, sa créature de tout ça. Là. Mais on a cette première expression-là. Nous, faut comprendre, nous, c'est de la traduction. Hein. Si on était dans l'hébreu, on aurait exactement les mêmes mots hébreux qui viennent pour cette phrase-là. Vous trouvez la deuxième dans chapitre 5, verset 1. « Voici le livre de la postérité d'Adam. » Vous voyez, là, c'est encore plus clair dans le français. C'est comme s'il nous présente un livre qui aurait existé à l'époque de la postérité d'Adam. Puis là, si on retourne du verset 4 du chapitre 2 jusqu'au verset 1 du chapitre 5, c'est tous des événements que Adam était au courant, qu'il aurait certainement pu écrire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec ses fils et tout, là, je veux dire, il était au courant de ça. Qu'est-ce qui s'est passé après la chute, évidemment, comment il a vécu ça avec Ève, puis comment Dieu a dealé avec eux, Adam aurait pu l'écrire tout à fait. C'est que dans le verset 4 du chapitre 2, il ne mentionne pas que c'est Adam qui l'a écrit, mais c'est comme s'il n'était pas là, tu sais, pour les premières journées. On peut continuer, la même phrase revient au verset 9 du chapitre 6. Et voici la postérité de Noé. Nous, on lit ça vite, là, mais c'est la même phrase qui revient dans l'hébreu. Puis encore là, du verset 1 du chapitre 5 jusqu'à là, tout le... Là, on pourrait... Je vous démontrerai pas ça, mais on pourrait certainement me montrer que Noé était présent de ce temps-là, particulièrement le début du chapitre 6, où est-ce que Noé a été témoin du fait que la déchéance de l'humanité qui s'est empêtrée davantage dans le péché. Puis c'est ça le début du chapitre 6. Puis là, on va trouver plus loin, verset 1 du chapitre 10. Dans le fond, je vais juste vous les montrer, là, rapidement. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, des fils leur naqueurs après le déluge. Donc, après que Noé soit sorti du déluge, il semblerait que ce soit ses fils, ou particulièrement un de ses fils, qui aurait répertorié l'année qui venait de se passer, qu'est-ce qui s'était passé durant le déluge, puis tous les détails. Ça aurait été un de ses fils qui aurait eu ce job-là. Puis finalement, je vais prendre. Il y en a d'autres dans le reste de Genèse, mais vu qu'on passe pas au chapitre 11, j'irai pas les voir. Vous irez voir pour vous-même dans vos notes. Finalement, on tombe avec le verset 10 du chapitre 11. Donc, je vous disais qu'il y avait certainement un des fils de Noé. D'ailleurs, un des fils qui semblait clairement suivre la lignée de ceux qui invoquent l'Éternel puis qui craignent l'Éternel. Donc, verset 10, voici la postérité de Sem. Le Sem aurait certainement pu aussi écrire ce qui s'est passé auparavant ou du moins le compiler. Pour ceux que ça intéresse, vous irez voir ça plus à fond. Mais c'est clair que dans Genèse, il y avait une intention de la part de l'auteur-compilateur de donner une section de plusieurs archives là, d'événements qui se sont passés. Autre point que je veux voir avec vous ce matin. Je ne suis pas sûr ce matin qu'on va commencer à embarquer dans le premier verset comme de fait, là, mais il y a une couple de trucs que je veux dire avant, que je trouve important. On va parler de principes d'interprétation. Ça pourrait tout être un cours. Ça. Ils font des cours dans les écoles théologiques juste sur l'interprétation. On appelle ça l'herméneutique, c'est ça? L'herméneutique. Mais je veux quand même juste revenir sur certains points. Là. Je ne vais pas tous les défendre. Le point, c'est juste vous dire, dans la tradition évangélique conservatrice, voici c'est quoi les principes d'interprétation. Puis je pense que c'est des principes... On devrait se servir pour lire n'importe quel livre, là, pas juste la Bible. La Bible, il y a des trucs spéciaux avec la Bible, évidemment. C'est que ce n'est pas des principes là, que je vais vous révéler que vous ne saviez pas. C'est quelque chose de bien, bien normal, mais c'est important de les dire parce que c'est possible aussi de faire dire n'importe quoi au texte si on n'a pas ces principes-là. C'est des principes simples, de bon sens. Et ça a tout rapport avec le fait que Dieu a choisi l'Écriture. C'est Dieu qui a permis qu'on ait cette intelligence-là, qu'on puisse écrire. Lui-même l'a choisi. Là. C'est le même qui nous parle aujourd'hui à travers l'Écriture. Là. On n'a pas tous des songes là, différents chaque soir, puis il faut s'asseoir pour les interpréter. C'est écrit. Puis je veux dire, Dieu nous a donné une raison, nous a donné une intelligence pour comprendre ce qui est écrit. On est capable de lire, on a un langage. Et puis, c'est clair que s'il faut avoir absolument trois doctorats pour comprendre ce qui est écrit là, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Dieu veut que son message se rende. Okay? Dieu n'est pas là pour nous compliquer la compréhension. Il veut qu'on comprenne qu'on a un besoin de Jésus, on a un besoin de rédemption. Il faut que ça soit compréhensible. T'sais. Oui, comme tout le monde. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur, parce que c'est un livre profond. Plus qu'on lit, plus qu'on découvre des trucs. Mais comme Jésus l'a dit, même Jésus le dit, là, comme un petit enfant devrait être capable de comprendre. T'sais, la base du message, elle n'est pas complexe comme telle. Elle est plus compliquée pour le cœur pécheur que pour l'intelligence. Là. Exactement. Là, c'est un beau verset qui montre que Dieu veut que vous sachiez quelque chose dans ce qui est écrit. C'est ça. Mais c'est la même chose avec la Genèse. Il faut garder cette même pensée-là. Quand quelqu'un écrit, quand Dieu écrit, il veut se faire comprendre. C'est ça le but. Il veut pas juste qu'une petite élite qui comprenne quelque chose. Il faut s'asseoir ensemble, puis décortiquer, puis essayer de lire entre les lignes. Et nous, l'avantage qu'on a avec les Écritures, avec la Bible, on croit que les textes originaux sont exempts de toute erreur, que quand ça a été écrit la première fois, c'est tout ce qui a été écrit était vrai. Okay? On croit dans l'inhérence des Écritures, dans le fait qu'il n'y a pas d'erreur dans les textes originaux. Puis on croit pas juste ça, là, parce que les textes originaux, on les a pas avec nous aujourd'hui. On croit aussi que la transmission des textes a été quasi parfaite ou a été dirigée par l'Esprit de Dieu pour dire qu'aujourd'hui, on pourrait pas dire là, que on est vraiment dans le champ, parce qu'on en retrouve à un moment donné un texte là, qui avait disparu. Là, on va tout réviser notre théologie au complet, comme ils ont fait des films là-dessus. Là. Mais vraiment pas. Là, puis même c'est un autre sujet. C'est même prouvable dans le sens qu'on a trouvé des textes des fois plus tard, puis on les comparait avec des textes qu'on avait de nos jours. Puis les ressemblances étaient tellement énormes que ça, on pouvait pas penser. Ça supportait le fait que Dieu a gardé la transmission aussi. Donc, premier principe, la compréhension littérale du texte, c'est celle qui prime, à moins que l'auteur nous indique le contraire ou que le style du texte soit clairement un style, peu importe, que ce soit allégorique ou poétique, parce que c'est clair que dans l'Écriture, des fois, il y a vraiment de la poésie, même dans, chez les Hébreux, c'est clair. Et quand c'est le cas, c'est assez clair aussi. Okay? L'auteur le fait savoir clairement. Ou le style du livre, admettons, on lit un psaume, ça s'appelle un psaume, puis on le sait comment c'était écrit, avec quel style littéraire. À part ça, quand c'est clair, à part que quand c'est clair de la part de l'auteur humain ou Dieu derrière ça, on y va avec littéralement. Vous comprenez, si on fait pas ça, on est tous perdus ici, là, parce que si on a le choix de commencer à prendre des mots puis en faire une allégorie, une image à tout ce qu'on lit, bon, on oubliez ça, ça sert à absolument à rien, le livre ici, parce qu'on va faire ce qu'on veut avec. C'est que, on va y faire dire ce qu'on veut. C'est que, il faut vraiment arriver. On lit, le but, c'est que je comprenne ce qui est écrit. C'est que, je vais y aller avec une interprétation littérale de ce qu'on me dit là. À moins que le contraire. Okay? Puis, il y a, dans les Écritures, c'est clair. On arrive dans l'Apocalypse. C'est un style d'écriture, l'Apocalypse. C'est que c'est clair quand il parle de certaines choses. Ça veut pas dire que Jean les a pas vues, les choses, mais Jean le veut dire, il en avait jamais vu, mettons. Il y a bien des trucs que Jean a vu dans le futur qu'il avait jamais vu. C'est qu'il décrivait le mieux qu'il pouvait, là. Il pouvait pas appeler ça un hélicoptère s'il savait pas, là. C'est qu'il va appeler ça une autre affaire, t'sais. Là, je donne juste un exemple comme ça, là. Mais c'est clair dans le style littéraire. Puis c'est clair de la part de l'auteur. Il va dire comme, ça ressemblait à quelque chose, là. Fait que... D'ailleurs, je l'ai mentionné, je pense, dans le premier cours. Faut pas oublier que les premiers qui ont eu la chance de lire ça, probablement, c'était les Israélites. Lorsque Moïse a... Ben, ça a été tous ceux qui ont eu accès à ces écrits littéraires-là. Ça veut dire Adam et ses enfants. Et après, toutes les générations qui marchaient avec l'Éternel puis qui s'en foutaient pas de ce que Dieu avait à dire, ben, ils ont sûrement gardé ces écrits-là dans leur culture. C'est quand ils faisaient référence, l'idée pour eux et éventuellement pour le peuple d'Israël, c'était que quand ils allaient lire ça... Faut penser à eux, là. C'est quoi c'est comment ils ont reçu ça, eux, là. Il n'y avait pas toutes les théories qu'on a aujourd'hui, puis les idées qu'on a. Puis même au début de tout, avant que les premières années, ou je sais pas, les premières centaines d'années, avant qu'il y ait des gens carrément qui s'éloignent de l'Éternel, de la descendance de Caïn, puis s'en aillent de leur propre bord faire leurs affaires, avant ça, je veux dire, la seule idée que tu avais sur les origines, c'est ce que Adam avait reçu comme révélation, tu sais, je veux dire, les idées que plusieurs dieux se battaient ensemble dans une, tu sais, puis qu'à un moment donné, tu sais, toutes ces idées-là qui ont sorti dans les autres cultures, mais ça s'est fait plus tard, ok? Faut pas oublier ça, c'est que ça a été reçu par des gens qui avaient peut-être pas toutes les idées qu'on a aujourd'hui. Donc, pour comprendre le sens d'un mot, évidemment, il faut faire référence au sens du mot original à l'époque de son écriture. C'est que c'est sûr que ça, On se fie aux traducteurs qui ont fait une bonne traduction. On croit que les mots qu'ils ont utilisés en français ont le même sens que le mot qui était dans le texte original. Mais bon, c'est sûr qu'en bout de ligne, si on veut vraiment comprendre ce qu'un mot dit, il faut si on est capable ou quelqu'un le fait à notre place, aller voir dans le sens original, aller voir dans la langue originale, c'est qu'est-ce que le mot voulait dire à cette époque-là. Dans les autres textes, il était utilisé comment ce mot-là, t'sais. Mettons qu'on va regarder le mot cieux dans le premier verset. Bon, mais ce mot-là, il était utilisé ailleurs. Dans la Bible, il a été dit ou ailleurs dans la Genèse surtout, puis ça voulait dire quoi à ce moment-là pour essayer de comprendre. Puis quand les Hébreux l'utilisaient ce mot-là, ça voulait dire quoi? Évidemment, ça c'est évident. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on éclaire les zones grises avec les zones noires et blanches du même livre ou du même contexte. Évidemment, quand on lit n'importe quoi, il y a des trucs qui sont difficiles à comprendre après ma barre. Il y a peut-être des trucs qu'on pourra jamais comprendre avec certitude. Mais la meilleure façon d'éclairer quelque chose qu'on n'est pas sûr de comprendre, c'est d'aller dans le contexte immédiat avec des trucs qui sont clairs, OK? C'est que si c'est pas trop clair quelque chose, là, je voudrais donner des idées, là, mais bon. Mettons, si c'est pas clair, si la lumière au début qui a été créée dans la première journée, c'est-tu la lumière du soleil, c'est pas trop clair parce que là, t'es juste rendu là dans ta lecture, ben là, si tu lis plus loin, tu vas voir que c'est clair que Dieu a créé le soleil, OK? Puis là, on pourra parler du mot créer plus tard. Okay? C'est que c'est clair que c'est pas la lumière qui vient du soleil à ce point-là. C'est que là, une question pour moi qui était grise, parce que j'étais habitué à voir la lumière qui vient du soleil, là, c'est ma conception, mais là, vient de s'éclairer par quelque chose de noir et blanc dans le même texte. Okay? C'est que c'est un principe de base. Puis ici, dans le texte immédiat, dans le contexte, on n'a pas d'information, mais on va rester dans le même livre toutefois. Faut pas oublier que c'est un auteur qui écrit le livre. C'est qu'on va rester dans ses idées à lui, on va rester dans le même livre pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on comprend pas. Puis après ça, si on reste pas dans le même livre, on va au moins rester dans la Bible. Hein? Puis ou s'il y a des livres qui avaient été écrits du même temps que la Bible par des gens de la même langue, on va rester dans ce domaine-là. Finalement, deux derniers petits points. On interprète chaque parcelle de passage dans son contexte immédiat et puis élargi. Bon, ça, je viens juste de le dire. Contexte immédiat en premier, puis plus le contexte élargi par la suite. Puis une autre affaire qui est bien importante, qui va être bien importante avec l'étude de la Genèse, c'est qu'on fait pas dire plus que qu'est-ce que le texte dit. Ou en tout cas, quand je vais vous donner des pistes de réflexion, je vais être clair avec vous que c'est des pistes de réflexion. C'est pas marqué. Ça va être des pistes de réflexion. Souvent, ce qu'on va faire avec le premier chapitre, c'est que moi, on a de l'information de nos observations scientifiques ou de nos observations. Avec nos yeux, on a vu des choses avec des tests, on a vu des choses dans les derniers siècles. Maintenant, en lisant le texte de la Genèse, des fois, je vais vous faire des liens avec ce qu'on a remarqué, puis ça va peut-être nous donner des pistes de réflexion sur comment ça pouvait être à l'époque. Ça ne veut pas dire que c'était absolument comme ça, mais je vais vous donner des bonnes pistes de réflexion, parce que là, on a de l'information ici qui est quand même limitée, mais qui est vraie, on le sait qu'elle est vraie, puis je la vois là complétée avec l'information de ce que nos yeux ont vu. Mais ça, on s'entend que c'est nos yeux qu'ils ont vu, ça se peut qu'on se trompe, mais bon. Mais je vais essayer de faire attention tout le temps de me limiter à ce que le texte dit. C'est que ça, c'est une autre chose. Y a-t-il des questions jusque-là? Je veux parler aussi maintenant, et ça va être comme l'avant-dernier point avant qu'on commence le texte. Si on n'a pas le temps de commencer le texte ce matin, c'est pas grave. Je me suis dit, je veux pas, avec ce cours-là, je sais qu'il va y avoir bien des questions, c'est que je veux pas rouler à fond de train. Là, c'est que si vous avez des questions, vous m'arrêtez. L'historicité. L'historicité, ça veut dire est-ce que c'est vraiment historique la Genèse? Écoutez, là, on pourrait faire passer une année là-dessus. Là. Il y a eu tellement de critiques. De toute façon, en théologie, là, ceux qui avaient étudié le Marx, tu veux le savoir, il y a la haute critique, il y a toutes sortes de théories là, sur bien des affaires. Maintenant, c'est sûr que si on admet à la base que nous, on croit que l'Écriture est sans erreur puis qu'elle a la vérité, donc on va comme pas commencer à aller voir ce que tous ceux qui croyaient pas ça avaient à dire parce qu'ils ont pas la même foi que nous, c'est qu'on va pas nécessairement s'embarquer là-dedans à fond. Là. Mais bon, moi, je pense que qu'est-ce qui est le plus intéressant dans tous ces cas-là, c'est de voir comment que la Bible, dans la Bible, comment que Jésus lui-même voyait la Genèse, comment les autres auteurs voyaient la Genèse. Je trouve que parce qu'on croit que la Bible est vraie, on va aller chercher des arguments dans la Bible pour commencer, particulièrement avec ce que Jésus avait à dire. C'est qu'une des affaires qui est super importante, c'est que dans aucune occasion, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, lorsqu'on réfère à la Genèse, il n'y a jamais on ne peut jamais discerner que l'auteur qui y réfère à quelque chose qui pour lui n'est pas vrai ou qui est juste un mythe, une belle allégorie. Il y a tout le temps l'attitude qui s'en va chercher dans des faits puis dans de l'histoire. Okay, lorsqu'il va aller chercher d'informations dans la Genèse. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, Paul, quand il va parler des problèmes dans l'église d'Éphèse, puis qu'il va parler à Timothée, ils ont des problèmes au niveau du fonctionnement, du rôle de la femme, du rôle de l'homme dans l'église. Paul va aller chercher des arguments là, directement dans la Genèse. Là, écoutez, il va aller dans le chapitre 1, puis il va aller aussi dans le chapitre 3. Puis quand il fait ça, Paul, là, il est dans une situation de crise, il y a des problèmes, il s'en va chercher de l'information, puis il s'en va pas... chercher une belle histoire, mais on va compter l'histoire du lapin, puis on va résoudre les problèmes avec l'histoire, avec un petit mythe. Là. Non, on s'en va dire, écoutez, on va arrêter ça tout de suite, on va sortir de la culture, mais aller jusqu'au début. Okay? Puis mon argument, moi, le faire sur l'intention créationnelle que Dieu avait lorsqu'il a starté toutes les affaires. Là, on sort de la culture, on s'en va au début. Puis Paul, quand il parle, là, il n'y a pas... quand il dit qu'Adam a été créé le premier, ben il croit qu'Adam a été créé le premier. Puis pour savoir ça, c'est parce qu'il a lu la Genèse, puis il a bien vu qu'Adam a été créé le premier. Puis après ça, il va parler même que Ève a été séduite par un serpent, mais c'est pas... Pour lui, c'est vraiment des faits. Il y a eu à un moment donné un serpent, peu importe ça veut... Peu importe, là, je sais pas s'il dit même le mot serpent dans Timothée ou s'il dit Satan. Là. Je pense qu'il dit Satan. En tout cas, peu importe, là, je pourrais aller voir. Mais c'est vraiment une, pour lui, Paul, c'est vraiment de l'histoire. Là. On discerne rien d'autre que ça dans lorsqu'il va aller chercher. Puis d'ailleurs, c'est tellement important comme sujet pour lui, parce que là, il y a de la chicane, puis tout, ça, c'est que c'est important que les arguments qui sortent, ce ne soit pas juste des petites histoires bien le fun. Là. Et c'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite. OK. Donc, il parle même pas du serpent ni de. Mais il parle de séduction, puis que c'est la femme qui a été séduite. Mais là, si on va. Cette information-là, il l'a, parce que là, quand on lit le texte, on sait que le serpent, que Satan, à travers le serpent, est allé vers Ève en premier. On le sait, parce que c'est ça qui est écrit. Et ça, des exemples, je vais vous en donner une couple comme ça. Même avant de vous les donner. L'autre affaire qu'il faut savoir, à savoir si la Genèse aurait été écrite de façon poétique. Une affaire qui est importante de savoir, c'est que les Juifs, c'est leur livre à eux, c'est leur tradition à eux du temps de Jésus, qui croient ou non au Messie. Là, la tradition juive va jamais considérer la Genèse comme de la poésie. Là. C'était vraiment pour eux, dans la tradition, tout du moins dans la tradition conservatrice, si on veut, là, des Hébreux, ça a toujours été considéré comme un texte qui était historique comme le reste de leur histoire à eux. Puis du temps de Jésus, c'était ça, tout du moins. Ça, c'était clairement ça, du temps de Jésus. C'était fiable et on pouvait y référer comme référer à une histoire qui s'est vraiment passée. Donc, je vais vous sortir une couple de versets pour ça. Là. J'en ai pris quelques-uns ce matin que je trouvais bien. Là. Des versets qui parlent de citations directes de Jésus. Donc, vous en avez sûrement un qui vous vient à l'esprit. Jésus, il a fait référence quand dans les deux premiers chapitres de la Genèse? Quand il parle du divorce, quand il parle de la discussion sur le mariage, c'est que Matthieu 19, versets 4 et 5, il se fait poser la question par des pharisiens si, bon, un homme a le droit de répudier sa femme pour n'importe quel motif. Jésus va aller chercher où sa réponse? Il ne va pas la chercher nulle part, il va aller encore dans le deuxième chapitre de la Genèse. Il n'y a aucune idée de la part de Jésus ici qui est en train de réaliser quelque chose qui n'est pas vrai. Là. C'est pour lui, c'est très historique, comme ça l'était pour n'importe qui de son temps. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, donc même le Créateur, il n'est pas en train de dire Dieu a créé, au commencement, il fait référence qu'il y a vraiment eu un commencement. On pourrait même étudier les mots que Jésus, c'est, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Puis ça, c'est carrément mot pour mot qu'est-ce qui est dit dans le deuxième chapitre de la Genèse. C'est que Jésus ici fait vraiment référence à une époque où il y a le Créateur, commencement, il y a l'homme et la femme qui ont été créés, Dieu a institué le mariage, Jésus a il n'y avait pas une idée ici là, du tout là, qu'il s'en allait piger dans un mythe. Là. Un autre verset, le Matthieu 23, 35. Encore Jésus qui parle. Il parle à la foule et à ses disciples. Puis à un moment donné, il commence à parler aux pharisiens, qui sont des hypocrites, etc. Puis là, il dit au verset 33, « Serpent, race de vipère, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Il fait pratiquement référence à un des premiers événements de l'Ancien Testament, puis un des derniers. Puis encore là, Jésus, tu sais, le sang d'Abel, il y a tout un récit sur Abel qui a été tué. Puis quand Jésus fait référence à ça, c'est pas une belle image encore là, c'est pour faire le poids de ce qu'il est en train de dire, tu sais. C'est que Jésus semblait pas du tout considérer que c'était des histoires, des mythes. Puis deux derniers versets, je trouvais ça intéressant. Même il y en a un. Un, c'est dans 2 Pierre. Ben, 2 Pierre, c'est un texte que je trouve super intéressant. J'ai pratiquement le goût de vous. Je vais vous le lire tout de suite. Là. Dans 2 Pierre, un super de texte. On passe souvent rapidement par-dessus, puis je vais prendre le temps de vous le lire. 2 Pierre 3. Moi, je pense que ça parle vraiment des derniers temps, puis on en fait partie. Là. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Verset 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? » Donc, les gens, puis c'était déjà du temps des apôtres, là, même, il y avait déjà ce genre de discussion-là. Il se faisait rire d'eux, là. Je vous dis, vous êtes parce que les croyants espéraient dans le retour de Jésus. Jésus l'avait promis. Puis là, ici, il y a une prophétie sur le fait que dans les derniers temps, les gens vont vous railler, vont dire, ah, il y a où la promesse de son avènement, tu sais. Puis c'est quoi l'argument à ces gens-là pour se moquer des disciples? Ça va être quoi l'argument des gens pour se moquer des croyants dans le futur? Mais l'argument, il dit après le point d'interrogation, car leur argument à eux, ces gens-là, ça va être deux choses. Depuis que les pères sont morts, depuis que les ancêtres sont morts humains, tout demeure comme depuis le commencement de la création. L'idée ici, ils sont en train de dire là, pourquoi Dieu interviendrait dans le futur, puis Jésus reviendrait vous chercher. Depuis le début, là, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il n'y a rien, il n'y a pas d'intervention de la part de Dieu. Pourquoi il interviendrait dans le futur? Puis ça, c'est, quant à moi, c'est une belle allusion à ce qu'on appelle l'uniformitarisme ou l'évolutionnisme. Cette pensée-là moderne, que dans le passé, on n'a pas besoin de faire référence à un être suprême pour expliquer ce qui s'est passé. Tout s'est passé naturellement par soi-même. C'est ça la croyance de nos jours. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un début, qu'on est prêt à l'expliquer, mais tout s'est développé. On n'a pas besoin d'aucun agent extérieur. De l'intérieur de l'univers, il s'est développé lui-même pour qu'aujourd'hui, on se rende où ce qu'on est. Puis ça a pris des milliards d'années. L'uniformitarisme, c'est l'idée là, que c'est toujours uniforme. C'est un développement uniforme et graduel des choses. C'est pour ça que ça prend des milliards d'années. Mais sans apport extérieur. Okay? Puis l'évolutionniste, c'est un peu la même idée. C'est l'idée que c'est graduellement, il y a une évolution, que ce soit au niveau de la géologie ou au niveau de la biologie. Puis c'est ça, l'argument, c'est... Pourquoi est-ce que Dieu interviendrait dans le futur? Il n'a jamais rien fait dans le passé. Tout demeure comme dès le commencement de la création. En effet, verset 5, « Ils, les moqueurs, oublient volontairement. » On pourrait faire toute une discussion. C'est pas juste qu'ils oublient parce que... c'est pas juste qu'ils se trompent. Il y a toute une question de cœur dans tout ça. Hein. On le sait, nous-mêmes, on sait notre propre cœur, comment qu'il est. Ils oublient volontairement deux choses. Deux choses que dans le futur, les gens vont oublier pour faire leur moquerie. Ils oublient deux choses. La première chose qu'ils oublient, c'est la création. Ou la première chose qu'ils ne veulent pas croire, c'est la création. Donc, on pourrait dire ignorer. Ils oublient volontairement, OK? Qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Première chose qu'ils ignorent, c'est la création. Puis la deuxième chose, verset 6, et que par les mêmes causes, c'est-à-dire l'eau, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Il y a une référence directe au déluge de Noé ici. Mais par les mêmes paroles, Pierre va aller plus loin et dire dans le futur, par la même parole, Dieu va tout détruire par le feu. Soyez-en certains, autant que Dieu a tout détruit par l'eau à un moment donné, puis autant que Dieu a tout créé à un moment donné, Dieu va aussi agir dans le futur. Puis c'est ça votre assurance à vous, les croyants, qui vous faites écœurer, qui vous faites railler de la part de gens qui ne croient pas dans l'intervention divine. Ces gens-là veulent ignorer, ils oublient volontairement qu'il y a eu création. Puis jusqu'à un certain point, je pourrais faire le parallèle aujourd'hui, croire dans l'évolution. Si vraiment dans ta chambre seule le soir, tu te mets à penser, c'est tout qu'un élément de foi. Là. On pourrait revenir, c'est tout qu'un élément de foi de dire que il n'y a rien à l'extérieur de l'univers là, qui a poussé rien, là, tout s'est fait tout seul. Là. Ça fait tellement pas de sens avec comment que notre cerveau et fonctionne. On a toujours une cause à tout ce qui se passe. C'est toujours une question d'une loi de cause à effet, là, de penser que l'univers s'est développé tout seul. Là. C'est assez quelque chose. Okay? Mais ça fait l'affaire certainement d'un cœur pécheur de ne pas avoir être devant envers un créateur. Okay? Donc, si tout ça s'est développé tout seul, ben ça s'en va tout seul, puis on fera nos propres décisions en tant que race humaine. Okay? Donc si c'est ça le point. Deux choses qui ont été ignorées dans le passé, puis c'est deux interventions catastrophiques de la part de Dieu. C'est que dans un système gradualiste où tout est graduel, ben les deux interventions aussi que Dieu aurait faites, c'est la création. Là, je vais y revenir, mais créer quelque chose. Ça casse le beat que supposément l'affaire est en train de se développer graduellement. On crée. Puis deuxième chose, on détruit tout. Okay? On s'entend qu'il n'y a pas tout détruit, mais il y a tout bardassé la planète au complet à un moment donné. Puis ça a changé des affaires. On va y revenir parce que c'était plus pareil après qu'avant le déluge. Mais le point aussi que je voulais faire dans ce texte-là, là, j'ai été plus loin que qu'est-ce que je voulais, c'est que Pierre fait référence et un petit détail qu'on passe vite par-dessus. Quand il dit que les gens veulent oublier la création, il parle même de la façon que la terre a été formée. Puis ça, c'est une information qui nous est donnée dans Genèse 1. Il dit, il y a autrefois des cieux une terre qui, du milieu de l'eau et formée de l'eau, surgit à la parole de Dieu. Puis ça, c'est une référence très, très claire à la façon que Dieu a créé les continents au jour 3, je pense. Je mélange les jours. Dieu a créé le jour 3, on va y revenir, mais Dieu a séparé les eaux pour que la terre sèche apparaisse par endroits. Okay? À ce point-là, Dieu n'a pas créé à partir ex nihilo, à partir de rien, il a créé à partir de ce qui était là, donc il a modifié, puis il a fait apparaître le sec. Puis c'est clair, c'est clairement ça ici que Pierre fait référence. Il veut ignorer qu'à l'époque, il y a eu de la terre qui a été formée du milieu de l'eau et formée par l'eau. Puis même formée par l'eau, on va revenir dans Genèse 1, l'eau, ça semblait être même la première matière que Dieu a créée. Dès la première journée, il y avait de l'eau. Ça semble à partir de l'eau qu'il y a bien des trucs que Dieu a créés, là. Peu importe que ça soit clair comme l'eau de roche que je viens de vous dire. Il y a une allusion ici, il y a une allusion de la part de Pierre à la façon de créer de Dieu dans Genèse 1. Et donc, le but de ça, c'est de vous dire que Pierre, il considérait pas cette information-là comme juste n'importe quoi. OK? C'est qu'il y a encore une idée que le texte était considéré par les apôtres comme un texte vraiment littéral et tout ce qui était dit dans le moindre détail est important. Puis ça, c'est un détail. Si vous comprendrez que la façon que la terre a été créée au moyen de l'eau, c'est quand même un détail dans le texte. Même, je suis même pas sûr que vous en rappeliez comme ça. T'sais. Là, je vous le dis là, mais on pourrait aller. On va le voir, évidemment. C'est que je trouvais que c'était un bon verset, puis je finis rapidement avec deux autres versets que je trouvais intéressants ce matin. J'ai juste pigé ceux, là. Puis le point que je veux faire, pour que ça soit clair dans vos têtes, c'est historique et littéral, les premiers chapitres. OK? On va y arriver après ça. Il y a des gens qui croient que c'est littéral, c'est correct, mais il va y avoir des théories au niveau de mettre un espace de temps entre le verset 1 et 2. Puis aussi, une théorie de pas considérer les jours comme des jours littéraux. Je suis pas en train de parler de ces théories-là. Je suis en train de parler de l'idée de considérer la Genèse puis les premiers chapitres comme étant pas littéral tout court. Okay? C'est des idées qui circulent, là. Ça va jusqu'à dire que Adam était pas vraiment une vraie personne. C'était juste une idée, si on veut. C'est que, tu sais, en théologie, ça va loin, là. Les gens, finalement, il y a rien. Il y a juste on peut aller chercher des principes dans les premiers chapitres, mais absolument rien d'historique. Tu sais, je veux dire, c'est l'évolution qui a eu lieu. C'est vraiment l'évolution qui a eu lieu. Je crois que Dieu est derrière l'évolution, mettons. Puis dans les premiers chapitres, bon, il y a des principes, mais ça n'a rien à voir. Là, Adam n'a pas existé, Ève non plus, il n'y a pas eu. T'sais. C'est que ça va jusque-là. C'est des idées qui ont sorti puis sont encore crues par certains. C'est pour ça que je veux juste faire le point. Puis comme je vous dis, puis c'est rien de condescendant ce que je vais dire là. J'ai déjà enseigné le cours à un moment donné. Puis quelqu'un m'a dit, écoute, avant que je suive ton cours, moi, la Genèse, j'avais mis ça dans un tiroir à part parce que je me disais, ça se peut pas que ça soit vrai, tout ça. Là, j'écoutais une nouvelle, puis je me suis fait enseigner à l'école, tout ça. Puis il y a de quoi que je comprends pas. Probablement, c'était pas vrai. Il m'a dit ça comme ça, pas vrai. Ou c'était un genre de mythe. Tu sais, les premiers chapitres, là, c'était pour lui, c'était, on avait évolué, mais Dieu existait, puis Jésus est venu sur la terre, puis tout le kit. Mais tu sais, c'est pas, je comprends qu'il pensait ça, je comprends tout à fait. À un moment donné, si tu veux régler ça dans ta tête, c'est que tu mets ça de côté. Mais c'était pas la vision des écrivains du Nouveau Testament, c'est le point que je suis en train de faire. Donc, 1 Corinthiens 15, 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. C'est intéressant, là, on pourrait même aller voir, vous vous rappelez, Adam a été créé comment? À partir de la poussière de la terre. Il y a une belle référence à ça ici, je crois. Et dans 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Donc, si on a Paul qui fait référence à l'événement de la séduction d'Ève, puis il fait référence au serpent. Donc, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez weirdo là, qu'un serpent séduit quelqu'un. Là. Mais là, ici, Paul ne semble pas en faire un gros col. C'est ça qui s'est passé, même si je comprends pas trop ça, puis j'ai jamais vu ça non plus. T'sais. C'est que c'est ça. Donc, c'était juste pour faire le point de l'historicité de la Bible en utilisant la Bible elle-même pour prouver ce point-là. Donc, c'est pour ça que, c'est entre autres pour ça ce que je viens de vous dire, que lorsque j'enseigne la Genèse, j'ai pleine confiance que c'est historique. Entre autres pour ça, parce que je crois que c'est la façon que les auteurs la considèrent, que Jésus considérait. Pourquoi moi, par crainte, je ne le ferais pas? Non. Puis, comme je vous dis, une des idées du cours, ça va être vous donner pleine confiance qu'à mesure qu'on le prend comme tel, le texte, qu'on le prend historique, puis qu'on le prend littéral, ben tout fait plus de sens, à mon avis. Oui, Esther. Ouais. Ouais, puis il fait encore référence à cette époque-là comme une époque historique, tout à fait. C'est bon. Et les points d'ailleurs, où est-ce que je vais mettre de l'emphase, les points qui sont souvent attaqués, évidemment, c'est Oui, il y a les jours de la création, on va en parler. Ça semble peut-être bénin et très anodin de discuter du jour de la création, si c'est 24 heures ou non, mais ça a plus d'implications que ça, puis on va en parler lorsqu'on sera rendu là. L'âge de l'univers est affecté, parce que sinon, en prenant la Genèse littéralement, là, on peut pas aller pousser loin pour l'âge de l'univers. On a un gros maximum, OK? On peut pas sortir une date puis une heure dans l'après-midi, là, à quelle heure ça s'est fait, parce qu'il y a des points, il y a des informations qui nous manquent, que je vais vous dire rendu là, mais on peut pas pousser notre log ben plus loin que, je vous dis tout de suite le scoop, 10 000 ans probablement, là. C'est pas 10 000 ans de nos jours, si on dirait ça à une classe d'école, mais je dis, c'est pas passé grand-chose en 10 000 ans, là, t'sais. C'est pas mal une goutte dans l'océan. Ça change quelque chose, c'est de vivre, de dire que la Terre, tu sais, ça va pas si longtemps que ça, que tout ça s'est passé, versus avoir une conception où, tu sais, on est là, mais ça fait des milliards d'années que ça s'est passé, puis de toute façon, c'est tout un hasard que je suis là, ça change vraiment notre mindset, notre vision du monde, lorsque, par rapport à tout, dans le fond, on y pense. Et tout ça aussi, en plus de ce que les Écritures disent, on va voir qu'en bout de ligne, il n'y a aucune raison d'être ébranlé. Il n'y a pas raison d'être ébranlé. On peut avoir des opinions différentes, mais certainement pas être ébranlé et puis se sentir obligé de trouver une façon d'harmoniser le texte avec les interprétations de nos jours. T'sais, on va se rendre compte que c'est pas nécessaire. Certainement pas nécessaire. Puis je pense pas non plus que c'est garant, là, que ça vaut que c'est ce que le texte dit. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, on va... est-ce qu'il y a des questions? Là, j'ai resté dans l'intro, on n'a pas commencé le texte, mais là, je serais prêt à commencer tranquillement à entrer dans le texte. Il reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Oui, Karine. Oui. T'as-tu déjà pensé c'est long, là, gratter quelque chose dans une roche? Bon, ouais. Possible. Oui, non, c'est correct, Mais dans le fond, mais c'est sûr qu'on va y revenir. Adam et Ève, on va revenir à ce point-là. Parce que je ne veux pas entrer là-dedans, je vais peut-être en parler trop. Là. Mais peut-être une chose, je le dis, dans le fond, c'est sûr qu'il n'y a rien de clair dans ce qu'on dit là. Une chose est claire, c'est que Moïse est considéré comme celui qui est derrière ces livres-là, donc les cinq premiers livres, là, par Jésus et les écrivains du Nouveau Testament, puis les scribes, puis ceux de la tradition hébraïque. À savoir comment il a reçu la révélation. Ce que je vous ai proposé, c'est juste pour une couple de raisons. C'est parce qu'on le voit se produire, ça, la conservation d'écrit, de mettre des choses par écrit. On le voit se produire dans l'histoire du peuple d'Israël, dans les rois, les chroniques. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. L'autre chose, c'est aussi la façon que le texte a été coupé. Quand je vous ai sorti la petite phrase tout à l'heure, là, dans l'hébreu, là. Quand on fait, en tout cas, en littérature hébraïque, il y a vraiment quelque chose aussi qui est voulu de la part de celui qui a écrit ou compilé le texte. C'est comme s'il est allé chercher, on dirait, littéralement des archives, puis il relie ça à chaque fois à un nom. Puis le nom à qui il relie, c'est quelqu'un qui aurait fort bien pu écrire que les textes précédents, parce qu'il était là. T'sais. Ça veut pas dire que c'est ça. C'est juste, c'est pour ça que je disais que ça pourrait faire du sens que ça soit ça. Puis si Dieu a tout révélé ça à Moïse sous forme de révélation, ça change pas le fait que c'est historique, puis c'est vrai. C'est ça. Mais une chose, pareil, je vais juste faire le commentaire par rapport à l'écriture. Faut vraiment réaliser, ça je vais vous la faire tout de suite tant qu'à faire, même si on n'est pas rendu là, faut vraiment réaliser que Adam et Ève avaient tout un package quand ils ont été créés. T'sais. D'ailleurs, ils savaient parler, là, c'est immense, pensons-y, là, ils étaient déjà en train de communiquer au moment où ils étaient créés. Entre eux deux, avec Dieu, ils comprenaient les commandements de Dieu, t'sais, Dieu a parlé puis a donné des commandements à Adam. Je veux dire, il n'a pas fallu qu'il l'apprenne de personne. Il n'y a pas eu le processus cognitif qu'on a aujourd'hui pour apprendre. C'est quand même quatre choses. Puis si pour ceux qui ne croient pas dans l'existence de Dieu, d'essayer d'expliquer comment cérébralement l'être humain a développé le langage, c'est quelque chose d'assez complexe. C'était déjà là. T'sais. C'était déjà là, puis Dieu a dit à Adam, dit, je vais t'occuper du jardin. Il n'a pas dire, écoute, bon, m'asseoir avec toi, m'a t'aider à comment qu'on va construire des outils, puis comment que tu vas faire ci, ça. Puis même amené Adam, il a dû nommer des animaux. T'sais. Il s'est fait passer des animaux en avant lui pendant un bout. Puis ça n'a pas eu l'air si compliqué pour lui qu'à nommer des animaux, mais nommer quelque chose, il faut quand même que tu associes une image que tu vois avec un mot. T'sais. Mais le gars, il venait juste d'être créé, là, tu sais, c'est quand même complexe faire ça. Il a donné des noms, tu sais. Je sais pas si vous savez donner un nom, là, mes enfants, à ce point-ci, ils donneront pas des noms, des trucs qui ont du sens, tout du moins, ils vont donner n'importe quoi. Mais là, ça avait du sens, tu sais. C'est qu'on oublie ça, tu sais, on oublie qu'il s'est fait, c'était bien en feuille de figuier quand il était gêné, savais-tu quoi, nous? Je sais pas, mais tu sais, je niaise, là, mais c'est sûr que c'était pas un gros câble, là, qui m'a, il savait pas trop quoi faire, là. Je pense pas que, tu sais, je pense même que assez vite, ben, je veux dire, tu regardes Caïn et Abel, tu sais, ils élevaient. L'un qui était éleveur, l'autre qui cultivait des fruits, tu sais. Comment ils ont eu toute la connaissance au niveau de l'agriculture, comment s'occuper des végétaux, tout ça, je veux dire, parce que le commandement était déjà de faire ça. Même le commandement était de se reproduire au début. Je veux dire, il y a beaucoup d'affaires, là, que soit s'ils ne savaient pas, ils allaient savoir vite en mot, t'as dit, là, tu sais, c'était. Mais si on oublie ça, c'est quand même assez surprenant. Puis quand tu iras voir dans Genèse 4, c'est 4, ouais. Lorsqu'on a la descendance de Caïn, Caïn s'en va s'établir ailleurs, il se bâtit une ville. Puis on a sa descendance à lui, ça a pris à peine les premières générations. Ensuite, la métallurgie a été développée, la musique, ils font mention, là. Ça, c'est super tôt. La musique, c'est quelque chose de super complexe, de super poussé, tu sais. Fait que, tu sais, là, on va revenir à ça, là, mais je vais juste te lancer. Tu sais, c'est sous cette époque-là, mettons, verset 22, qu'il forgeait les outils de bronze et de fer. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il pense à aller chercher les minéraux, comment faire fondre ça. Tu sais, la métallurgie s'est développée, la musique, plus loin, il dit... Mais l'un qui était l'ancêtre des éleveurs nomades, l'autre est l'ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Il faut que tout le monde qui les fabrique et qu'ils comprennent un peu quelque chose dans tout ça. C'est que mon seul commentaire à tout ça, c'est qu'on sous-estime l'intelligence innée qui a été donnée aux premiers êtres humains. Évidemment, après, les enfants qui naissent n'ont pas ça. T'sais. Ils l'apprennent de leurs parents. Mais Adam et Ève étaient choyés. Certainement qu'ils étaient choyés. Puis je pense que ça fait du sens. Ils sont pour survivre, là. Survivre. C'est sûr que c'était pas trop difficile de survivre à l'époque, là, mais tu sais. Puis assez vite, ils ont dû apprendre à. Je veux dire, même apprendre à faire le feu, c'est parce qu'assez vite, c'est sûr qu'au début, on va revenir. Ça, je vais partir dans d'autres affaires. Oui, monsieur Ely. Adam. Mais une chose, je comprends ce que vous dites, mais il ne faut pas oublier que si le langage existe lorsqu'il a été créé, ben il a fallu que toute la complexité de ce langage-là que je ne connais pas était déjà dans leur cerveau parce qu'ils parlaient, tu sais. C'est compliqué de parler, là. Même au niveau du langage, j'en parle tout de suite. OK, je finis avec ça. Même au niveau du langage, il y a une apparence d'âge ou une apparence d'évolution, je vais dire ça de même, ou une apparence d'âge, même au niveau du langage. Nous, on est tout habitués dans tout ce qu'on vit tous les jours. On est habitués de voir les choses se développer. On a une mentalité gradualiste, quand je dis gradualiste, c'est qu'on voit les choses se développer graduellement. Puis toutes les choses prennent du temps pour arriver à l'état où elles sont. C'est quand on voit de la maturité, pour nous, c'est de la maturité, c'est le résultat d'un processus toujours, incluant le langage. Même le langage dans les peuples, pour nous, on va dire, ça a évolué à cette langue-là aujourd'hui, puis on fait des études pour essayer de voir d'où ça vient. C'est naturellement notre façon de penser, c'est comme ça qu'on voit la vie, on vit, nous, on est, on grandit. C'est ça, puis on voit les choses se former. C'est que, je finis avec ça, le point, c'est que même là, pour nous, on peut pas avoir un langage complexe comme ça du jour au lendemain sans qu'il se développe, ça fait pas sens, parce qu'il faut qu'à un moment donné, les mots prennent des sens. Puis il faut qu'il y ait de toute l'étymologie, il faut qu'à un moment donné, on a décidé qu'on lui donnait ce sens-là, puis ça s'est développé, puis on a rajouté d'autres syllabes après le mot pour donner d'autres sens, mais ça, c'est un processus qui est long, tu sais. C'est qu'au même titre que le langage, il faut le prendre comme tel parce qu'on le sait qu'il parlait. OK, ça, c'est le fait qu'on a. Mais la même affaire, je veux dire, moi, j'aurais rencontré Adam là, 5 minutes après qu'il soit créé parce que je passais par là. Je sais pas pour quelle raison. Ben, je sais pas. Peut-être qu'il m'aurait donné l'impression d'avoir 35 ans. Puis, je sais pas, j'aurais donné 35 ans parce que, je veux dire, tout le monde que je vois qui ont l'air de tout ça ont à peu près 35 ans. Là, j'invente l'âge. Puis, ça aurait été super intelligent de ma part penser ça parce que, tu sais, c'est ça que j'ai remarqué dans la vie jusqu'à maintenant. T'sais. Sauf que le gars, il avait 5 minutes. Mais il y avait l'apparence d'un gars de 35 ans. On va y revenir à ça. L'apparence d'âge, c'est super important. C'est tellement important que toutes les méthodes de datation que tu fabriques, si c'est pas un principe que tu es prêt à considérer, tu es déjà en train de prendre une décision dans ta méthode de datation. Oui. 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 Oui.
Et alors, la connaissance de génération à l'autre, il a quand même été maintenue assez fort.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, ça c'est...
La révélation, c'est peut-être plutôt rare, mais la connaissance, certainement, il est à l'autre. Les preuves, ils y ont vécu très longtemps.
Oui, tout à fait. Mais là, on parlait vraiment de la connaissance qu'il y avait dès le début, mais c'est clair, après ça, ils en ont développé d'autres, etc., etc. En passant, là, je me rends compte que j'ai pas pris l'habitude. Quand vous posez des questions, il va falloir que je les répète parce que ça sera pas enregistré, c'est que ça va de l'air de n'importe quoi, là, pour ceux qui vont écouter, là. C'est qu'aidez-moi, ça se peut des fois que je vais juste par réflexe répondre tout de suite sans répéter la question. J'ai le même réflexe avec ma femme. Je répète pas sa question pour être sûr que j'ai bien compris. Bon. Donc, c'est ça. Je vais. Non, ça va être un bon. Je vais dire que ça, c'est une bonne affaire, mais je suis obligé d'écouter puis d'arrêter. Mais, donc, c'est ça. Aidez-moi, arrêtez-moi et répète la question, puis pour que ça soit bénéfique pour ceux qui vont écouter l'enregistrement. On va terminer avec ça. La semaine prochaine, donc, on va vraiment rentrer avec le premier verset. On va y aller mot pour mot, puis on va être obligé de staller après le premier verset parce qu'il y a une théorie qui dit qu'il s'est passé des millions, des milliards d'années d'après les gens entre les deux premiers versets, qu'on va être obligé d'aborder ça tout de suite après le premier verset la semaine prochaine. Donc, merci, bonne journée.